En coloc. Une retransmission proposée par Canal Académie.
Il semble que c'est véritablement une nouvelle vie qui débute pour les chercheurs et écrivains qui reçoivent un prix Nobel. C'est au Palais de la Découverte à Paris que Claude Cohen-Tanucci, prix Nobel de physique en 1997, Gao Xinjiang, prix Nobel de littérature en 2000, et Françoise Barré-Sinoussi, prix Nobel de médecine en 2008, ont fait part de leurs impressions en tant que lauréats de cette prestigieuse récompense au cours d'une conférence qui s'est déroulée le 13 novembre 2008. Patrick Imhaus, alias Marc Bressan, prix de l'Académie française 2008 pour son roman La dernière conférence, assurait avec humour le rôle de maître de cérémonie. Canal Académie retransmet les meilleurs moments de cette rencontre. Vous allez entendre ainsi successivement dans quelques instants Françoise Barré-Sinoussi, Claude Cohen-Tanucci et Gao Xinjiang. Mais tout de suite, laissons place à Patrick Imhaus qui nous présente ses trois invités prestigieux.
Je ne vais pas parler longtemps, je crois que chacun ici a beaucoup de choses à dire. Sur le thème même qui a été retenu et qu'on peut résumer de façon plus lapidaire, à quoi sert le Nobel? C'est clair que c'est une question qu'on se pose depuis l'origine, depuis qu'on a ouvert le testament d'Alfred Nobel, et se sont posé cette question non seulement les héritiers dépossédés de Nobel, mais beaucoup de gens à Stockholm et ailleurs. Cette question, on se la pose toujours, mais à l'époque, l'institution sûrement allait dans le sens des préoccupations très partagées en Europe, comment, à l'époque des guerres qui avaient marqué pendant des siècles notre continent, faire se succéder une époque plutôt de confrontation pacifique entre les pays. Hein. Donc, vous le savez, bien sûr, les expositions universelles étaient très très fréquentes partout en Europe. Les Olympiades avaient été créées par Coubertin. Enfin, donc, cette idée des prix Nobel, je crois, correspondait tout à fait aux besoins de cette fin du 19e siècle. Hein. Ce qui se passe depuis lors, donc au cours de ce siècle qui s'est écoulé, c'est que la plupart des institutions qui ont été créées dans ces époques, par exemple les expositions universelles, les Olympiades, tout ça c'est en crise d'identité, et en fait il n'y a qu'une institution qui a réellement résisté à ce choc, je pense que c'est, et je suis sûr même que c'est le Nobel, hein. Et on va bien sûr essayer de comprendre pourquoi le Nobel a résisté et ce qu'il est aujourd'hui. Je pense simplement, avant que les différents conférenciers commencent, que en fait, ce qui était les faiblesses même du Nobel au départ ont été ses grandes forces. Ces faiblesses, je les résume très vite, mais d'abord d'avoir un jury strictement suédois. Quelle prétention quand même, un jury strictement suédois. D'avoir par ailleurs pas de règles, c'était ça le principe que j'ai entendu très souvent Michael Solman répéter, pas de règles, no rules. D'avoir un secret absolu, etc. Tout ça qui aurait pu conférer au Nobel une absence de légitimité, au contraire, je crois, fait que le Nobel aujourd'hui a des atouts irremplaçables pour désigner des gens dans les diverses disciplines qu'il couvre. Autour de la table, je vais les présenter très rapidement, hein, nous avons... Françoise Barré-Sinoussi, elle était à Phnom Penh, à l'Institut Pasteur, elle était directement sur le terrain, et je crois que c'est une de ses caractéristiques, c'est qu'à la fois elle est beaucoup dans son laboratoire, mais elle est beaucoup aussi sur le terrain, avec les malades et un peu partout à travers le monde. Donc, elle a une formation scientifique, elle a eu un doctorat de sciences en 1974, elle est à l'Institut Pasteur depuis quelque temps, avec le professeur Montagnier, donc elle a identifié en fait le virus dit de VIH. Et après, elle a travaillé énormément sur tous les problèmes, bon, de vaccins, enfin, nous dira ça plus longuement peut-être. Elle a une approche vraiment pasteurienne de la recherche scientifique, une recherche pour le bénéfice de l'homme. Je crois que c'est pas toujours inutile de le rappeler. Je passe maintenant à mon voisin de gauche, donc le professeur Claude Cohen-Tanucci. Lui, il est né aussi il y a pas longtemps du côté de Constantine. Et il a été à l'École normale supérieure, au CNRS. Puis ensuite, il a, depuis 64, il a été professeur à l'Université de Paris, professeur de physique, puis professeur au Collège de France, et il s'est beaucoup intéressé aux atomes, en quelque sorte. On peut dire comme ça. Alors, au niveau d'énergie, au champ magnétique, il a beaucoup traîné aussi ses guêtres du côté du zéro absolu, ce qui m'a toujours impressionné. Il est un des rares parmi nous, je pense, à avoir fréquenté le zéro absolu, hein. Il a eu le Nobel en 1997. Il est très engagé dans tous les combats pour la recherche scientifique, pour développer les vocations, pour sensibiliser les gens en général à la science. Et donc, lui, ça fait 10 ans, 11 ans même qu'il a eu le Nobel, et donc il nous parlera, alors que ma voisine de droite nous parlera des impressions que ça fait de recevoir le Nobel sur la tête. Vous, vous l'avez reçu déjà il y a quelque temps, et vous pourrez nous donner un verdict avec cette expérience. Je passe au troisième des lauréats, donc à Gao Xinyang, que je prononce toujours aussi mal, bien que je le connaisse depuis assez longtemps. Donc lui, il est né en 1940, pardon, je n'ai pas donné de date de naissance aux autres, et je m'excuse. Donc il est né il y a pas longtemps, en Chine du Sud-Est. Il a fait des études de français à Pékin, il a fait de la traduction, etc. Il est passionné pour le théâtre. Ça n'a pas toujours été vraiment bien vu par les autorités, on peut dire comme ça, pour résumer très vite. Il a eu quand même énormément d'ennuis de tout genre. Il est venu, après avoir fait notamment beaucoup de représentations de pièces de théâtre à Pékin, il est venu en France vers 1988. Très rapidement, il y a deux pays, je crois, où il a eu vraiment des amis, des gens qui ont cru dans tout ce qu'il faisait, c'est la Suède, où son roman a été le premier traduit, où on a acheté ses tableaux, et c'est la France, dont il a acquis la nationalité en 98. Donc sur sa carrière, il est à la fois, on ne sait pas comment il fait, mais c'est à la fois un peintre fabuleux, c'est un romancier que je vous laisse le soin de qualifier, mais c'est aussi un homme de théâtre, et il me disait tout à l'heure que le cinéma était devenu aussi une de ses passions. Donc il mène tout ça avec une réflexion générale sur qu'il est en train de mener sur ce que ça veut dire que la créativité. Et peut-être il nous en parlera un peu. Pour le relier à vous tous, j'ai quand même trouvé, en cherchant bien dans La montagne de l'âme, une phrase que je vous cite, « La vérité n'existe que dans l'expérience ». C'est une phrase que vous pourriez tous... Donc voilà, il fait partie un petit peu de la communauté scientifique à cause de cette phrase qu'il a mise dans La montagne de l'âme.
Merci. C'est quelque chose de très nouveau pour moi. Donc je vais simplement essayer de vous faire part comment j'essaye de percevoir ce que cette haute distinction va changer dans ma vie. Ce sera le deuxième changement, je dirais, de ma vie. Jusqu'à là, j'avais l'habitude de dire que j'avais ma vie avant 1983 et ma vie après 1983, après cette découverte du VIH qui a changé beaucoup de choses, à la fois dans ma vie personnelle, mais aussi dans ma vie professionnelle, permettant d'orienter les recherches de façon extrêmement différente, après le contact avec des médecins et aussi des malades, des patients, ce qui est complètement inhabituel pour un scientifique travaillant d'habitude assez isolément dans son laboratoire. Ma vie a encore plus changé lorsque, en 1985, j'ai visité pour la première fois l'Afrique, la République centrafricaine, probablement l'un des pays les plus pauvres du monde, et que j'ai pu constater de mes propres yeux la situation dramatique que vivaient ces pays, ces patients, le personnel soignant et le personnel médical. Et c'est vrai que l'on a sous les yeux tout simplement la réalité. Je pense qu'on oriente sa recherche un peu plus vers les applications de la recherche le plus vite possible et qu'à cette époque, j'ai compris toute la signification de ce que voulait dire la tradition pasteurienne en soi, aller de la recherche la plus fondamentale aux applications de la recherche en passant par la formation, le transfert du savoir, y compris dans les pays les plus démunis. Alors c'est vrai que ça fait 25 ans que j'essaye de travailler selon ce modèle de Louis Pasteur, qui était à mon sens un visionnaire, qui aurait probablement eu le Nobel, lui aussi, à l'époque. Et je pense que c'est cette tradition aussi de Louis Pasteur qui est récompensée aujourd'hui. J'ai bien entendu d'ailleurs que l'une des conséquences possibles d'une distinction aussi prestigieuse que celle-là, c'est une retombée pour les universités. J'espère que ce sera une retombée aussi pour l'Institut Pasteur qui... Peut-être beaucoup d'entre vous ne le savent pas dans la salle, mais est une fondation privée reconnue d'utilité publique et que donc, c'est vrai que la Supasteur vit beaucoup à travers des donations, à travers du mécénat. Mais aussi c'est ça qui lui permet d'avoir la réactivité face à des maladies émergentes ou réémergentes. Alors je vous disais il y a un instant que ma vie, à mon avis, va à nouveau changer. Il y a eu ces 25 ans. Et depuis le 6 octobre, je perçois déjà les changements et une nouvelle vie qui s'annonce à moi à travers tout d'abord de nombreuses sollicitations médiatiques, politiques, y compris publicitaires, Mais il y a aussi, et Dieu merci quand même, des sollicitations scientifiques. Bien sûr, je pense, et là ça va être des hypothèses, seule l'expérience me le dira, et peut-être mes collègues me diront aussi à travers leurs propres expériences. L'hypothèse que j'en fais et que je ressens aujourd'hui, c'est une grande responsabilité de porter une distinction comme celle-ci, car c'est la possibilité de pouvoir exprimer ce que pense toute une communauté scientifique et médicale au niveau international, auprès du grand public, auprès aussi des décideurs des pays, du monde entier. C'est aussi peut-être la possibilité d'initier de nouvelles passions pour la recherche, pour les jeunes chercheurs. C'est quelque chose, en tous les cas, qui m'est cher personnellement, parce que je crois qu'il faut penser toujours à la relève, et que cette relève, elle est nécessaire pour l'apport d'idées nouvelles, de créativité, le plus vite possible. Je pense qu'aussi, c'est la possibilité, au niveau scientifique, de développer de nouvelles coopérations au niveau international. C'est la possibilité d'amener des scientifiques de disciplines très variées à travailler dans des pathologies comme celle que je connais bien, qui est le VIH-SIDA, mais peut-être dans le domaine des maladies infectieuses de façon plus large. Car personnellement, je suis vraiment convaincue que la recherche d'aujourd'hui, mais encore plus demain, est une recherche pluridisciplinaire, multi-institutionnelle, qui demande déjà de plus en plus de spécialisation, mais si ces spécialisations et ces spécialités ne sont pas mises en commun, les progrès de la recherche seront beaucoup plus difficiles. Je crois que c'est dans le domaine du VIH-SIDA, ça a été probablement une des raisons de la réussite très rapide au départ de la découverte du virus et de la caractérisation de ce virus. Car c'est vrai que très rapidement, c'est mobilisé un réseau de cliniciens, de chercheurs fondamentalistes, d'immunologistes, puis de biologistes moléculaires. Et pas à pas, c'est tout un réseau qui s'est construit et qui, je pense, a répondu à l'urgence du moment. C'est certainement ces modalités-là qui seront le succès, je pense, aussi de demain. La possibilité aussi de développer de la coopération, y compris avec les pays en développement. C'est quelque chose qui me tient, bien sûr, moi, beaucoup à cœur. Mais je pense qu'on peut, à travers une distinction comme celle-là, être peut-être plus écouté au niveau des autorités et des décideurs de ces pays, en dehors des décideurs de nos pays industrialisés. C'est quelque chose que j'ai l'habitude déjà de faire depuis un certain nombre d'années, de rencontrer les ministres de la Santé et les responsables de programmes de ces pays, mais je suis convaincue, et je l'ai déjà, je dirais, un petit peu vécu après l'annonce le 6 octobre dernier, lorsque j'étais au Cambodge. C'est sûr que la réception par le ministre de la Santé du Cambodge, la veille de l'annonce et le lendemain de l'annonce, n'était pas du tout la même, et que là, j'ai eu le droit à une audience beaucoup plus longue de la part du ministre de la Santé du pays, et qui, bien sûr, m'a demandé justement de lui formuler des recommandations pour la prochaine fois lorsque je viendrai à nouveau au Cambodge. Donc c'est sûr que tout ça me fait penser qu'on a effectivement de lourdes responsabilités sur la tête, sur les épaules, que c'est lourd à porter. C'est vrai aussi, c'est quelque chose de fabuleux d'avoir une distinction de ce type, d'autant plus quand on a l'impression, comme je l'ai en ce moment, et ça me fait énormément plaisir, c'est cette distinction, le comité des Nobel l'a attribuée avec Luc Montagné et Zora Ozon cette année, mais j'ai l'impression que c'est toute une communauté scientifique au niveau européen, et je dirais même au-delà, qui a l'impression de la partager avec nous, et je dirais y compris les patients eux-mêmes et le milieu associatif. Et ça, personnellement, j'avoue que c'est quelque chose qui me tient à cœur et que j'apprécie énormément. Alors, je ne sais pas si mes collègues vont confirmer ou infirmer mes impressions, j'allais dire, au lendemain de cette annonce, qui, je crois, je ne réalise pas encore bien ce qui m'est arrivé depuis ce 6 octobre. C'est sûr que ça va changer ma vie de demain. Seul petit espoir, c'est quand même, j'aimerais bien pouvoir, à un moment donné, continuer à un petit peu travailler. Retourner sur le terrain, continuer à aider les pays du Sud à mettre en place de la recherche opérationnelle dont ils ont tant besoin pour convaincre aussi leurs décideurs de mettre en place des financements pour la santé publique de leur pays. Et si j'ai bien compris, c'était aussi quelque chose auquel Alfred Nobel tenait beaucoup. Donc on va s'attacher dans les années qui viennent, dans cette nouvelle vie qui s'ouvre à moi, de respecter la volonté d'Alfred Nobel. Je vous remercie.
Bon, je crois que le Nobel ne vous a pas stérilisé. Enfin, j'aurais plutôt tendance à prendre un pari que vous allez très bien vous en tirer. Est-ce que vous voulez nous dire comment vous en êtes tiré
Voilà. Alors, évidemment, je vais peut-être essayer de compléter ce qu'a dit Françoise en donnant un petit peu quelques éléments sur mon expérience personnelle et sur la philosophie que je retire de ces 11 ans de prix Nobel. D'abord, je voudrais dire avant tout, pour commencer, que c'est quelque chose de merveilleux. Si vous voulez, l'annonce du prix Nobel pour sa famille, pour sa femme, ses enfants, ses parents, pour qui vivre avec un chercheur n'est pas toujours facile tous les jours, compte tenu de la charge de travail que ça représente. C'est un immense bonheur pour les collaborateurs, pour les élèves, pour les maîtres qu'on a eus, et pour l'ensemble de la communauté scientifique. Je pense que le prix Nobel a un prestige immense et que c'est une bonne occasion dans la presse de parler d'un domaine scientifique, de mettre le projecteur sur des chercheurs, sur ce qu'ils font, sur les problèmes qui les tracassent, qui les intéressent, et ça, je pense, c'est extrêmement positif. Donc, en plus, si vous voulez, la semaine passée à Stockholm est une vraie féerie. Mon maître Alfred Kastler, qui a eu lui-même le prix Nobel en 1966, parlait d'un conte de fées. C'est vrai, c'est l'ambiance de Stockholm pendant cette semaine est quelque chose qu'on garde présent à l'esprit toute sa vie. Alors, ceci dit, le prix Nobel s'accompagne, disons, d'une quantité considérable de sollicitations, de demandes diverses qui vous assaillent de tous les côtés, et il devient difficile au bout d'un moment de gérer un petit peu cette situation. Je pensais au début que ça allait se calmer au bout de quelques années, c'est pas vrai du tout. Je crois que ça reste aussi pressant. Je dirais même, c'est même pire par moment, parce que les demandes qui vous arrivent au bout d'un certain nombre d'années sont plus difficiles à traiter et à gérer. Alors, il faut pour cela, et c'est ce que je donnerai un conseil à Françoise, il faut une certaine discipline. Au début, j'étais assailli par des demandes vraiment bizarres. Beaucoup de sociétés, beaucoup de comités désirent avoir un prix Nobel pour présider une table ronde. On m'a demandé de présider une soirée consacrée à la maladie d'Alzheimer. Je me demandais en quoi j'étais concerné. Ça m'a un peu inquiété. On m'a demandé de présider une table ronde sur les problèmes de sécurité alimentaire en posant un gros honoraire. J'ai dit que ce serait malhonnête de ma part. J'ai aucune compétence dans ce domaine, donc j'ai refusé. Donc j'ai pris l'attitude très rigoureuse de n'accepter de me prononcer que sur des domaines relevant de ma compétence, c'est-à-dire sur la recherche, sur l'enseignement. Ça, je crois que c'est la règle numéro un. Alors, ceci dit, bon, il y a des choses positives, des choses négatives. D'abord, vous êtes invité à énormément de conférences internationales. On vous demande de faire partie de tas de comités. Tous les amis que vous avez qui ont un moment 60 ans, 65 ans, 70 ans, il y a des jubilés, on vous demande d'aller prononcer un petit discours pour le jubilé. Donc, c'est un problème complexe, d'autant plus que quand on part à la retraite, on a moins de moyens de secrétariat, moins de moyens matériels dont on peut disposer, que ça devient extrêmement difficile à gérer. Bon, ceci dit, il y a des choses très positives et que je fais toujours avec grand plaisir, c'est qu'on me demande de m'adresser à des jeunes élèves de lycée, des jeunes étudiants d'université, de faire des conférences grand public, parce que je rencontre toujours un immense intérêt. Je constate que les enfants sont impressionnés par le prix Nobel, ils désirent savoir sur quoi on travaille, quelles sont les découvertes qu'on fait, et ça, il y a toujours une très grande réceptivité. Donc ça, c'est quelque chose de très positif, et essayer de montrer que la science est une aventure passionnante à des jeunes étudiants, c'est toujours quelque chose de fantastiquement intéressant. Et à cet égard, j'ai sans hésiter donné mon appui à un certain nombre d'initiatives, en particulier à mon collègue Georges Charpak, qui est lui-même prix Nobel en 91, qui a, avec Yves Quéré et Pierre Léna, démarré en France un système qui s'appelle la main à la pâte pour essayer de sensibiliser les jeunes enfants du primaire à l'observation scientifique, au raisonnement scientifique. Ça, je donne mon appui total. Je participe à un jury international qui récompense les meilleures équipes dans le monde qui travaillent sur des expériences pédagogiques. Ça, c'est extrêmement positif. Françoise parlait aussi de la coopération internationale. Ça aussi, c'est quelque chose d'extrêmement important. La science est universelle et je suis très sensibilisé en particulier aux relations avec les pays en voie de développement. Je fais partie, j'ai accepté volontiers de faire partie du comité scientifique international de l'ICTP, International Center for Theoretical Physics, à Trieste, qui a un rôle très important pour intéresser les jeunes physiciens venant des pays en voie de développement à la physique, pour les former, pour les entraîner pendant un an. Donc ça, c'est des choses extrêmement intéressantes. J'étais la semaine dernière à Tunis, participé à un séminaire sur la recherche, le développement et l'industrie. Et j'espère qu'il va y avoir une école méditerranéenne de physique avancée où des jeunes chercheurs du Maghreb et de l'Afrique subsaharienne viendront se former avec des enseignants français et européens aux techniques de la physique moderne. Donc cet aspect me paraît également très important. Je dois dire que nous avons été tous les deux membres de forums d'initiatives créés par le gouvernement, en particulier un forum pour développer la collaboration entre la France et l'Inde. Je m'y suis impliqué de manière considérable pour essayer de mettre sur pied un laboratoire de laser franco-indien. Et malheureusement, pour des basses questions de crédit, ce projet n'a pas été retenu par la France. Et j'en ai ressenti une certaine amertume parce qu'il y avait là, avec un budget relativement modeste, la possibilité de faire une expérience importante. Alors nous faisons actuellement tous les deux partie d'un forum franco-espagnol. Je ne sais pas très bien ce que sera l'avenir de ce forum. Donc si vous voulez, cette coopération internationale me paraît quelque chose sur lequel on peut avoir un impact. Et effectivement, quand on dit quelque chose, on est écouté si on a un prix Nobel. Vis-à-vis de la politique scientifique d'un gouvernement, je crois que là, on peut essayer de faire des choses. Je sais que je suis beaucoup intervenu il y a quelques années, 4 ans, quand on remettait un petit peu en place les structures de la recherche, pour demander que dans l'attribution des crédits de la recherche, on puisse attribuer des crédits quand on présente un projet qui n'est pas coloré, qui n'est pas sur un domaine particulier. En général, les grands organismes font une sorte de camembert où il y a des secteurs, les nanotechnologies, les biotechnologies, l'énergie, le développement. Quand on a une idée intéressante en recherche et qu'on veut obtenir un support, on a du mal à se caser dans ces tranches-là parce qu'il n'y a pas une qui est la recherche fondamentale. Et comme vous l'avez dit, il faut un continuum qui part de la recherche fondamentale aux applications et il faut que les bons groupes de recherche puissent être financés s'ils ont des bonnes idées, bien sûr, s'ils ont des idées intéressantes. Donc je crois que il y a maintenant dans l'Agence nationale de la recherche qui a été créée en France la possibilité d'avoir des projets blancs, c'est-à-dire des projets qui ne sont pas spécifiés, sur lesquels on peut demander donc des crédits si on a une bonne idée. Une autre expérience que j'ai eue, c'était de participer à une réunion de ministres de la recherche de l'Europe, et j'avais essayé de demander à la communauté européenne, à la commission de Bruxelles, de faire en sorte que les demandes de crédit européens, quand on dépose un projet à la communauté européenne, les dossiers sont devenus tellement complexes maintenant qu'il faut pratiquement un spécialiste pour les remplir. Alors ça, c'est ridicule. La science, ça doit être quelque chose de léger, de pas bureaucratique. J'ai essayé de plaider en faveur d'un assouplissement des procédures. Je ne sais pas là si on a été entendu. Si vous voulez, les bureaucrates sont très puissants. Il est difficile à leur faire changer d'avis. Voilà, ça c'est un autre aspect des problèmes. Il y a tout de même une expérience intéressante, c'est qu'il y a une nouvelle structure qui a été mise en place, qui s'appelle European Research Council, qui est beaucoup plus légère que la Commission européenne et sur laquelle on peut fonder de grands espoirs. Alors, il y a enfin les problèmes plus généraux, les problèmes politiques, religieux. Là, je me suis toujours gardé d'exprimer la moindre opinion personnelle en tant que prix Nobel. Bien sûr, en tant que citoyen, j'ai le droit d'avoir mes opinions politiques, j'ai le droit de choisir tel ou tel candidat, mais je ne me sens pas le droit d'influencer mes collègues, leur dire « il faut voter pour X ou pour Y ». Ça, si vous voulez, ça me choquerait beaucoup. Et donc, garde une politique extrêmement rigoureuse sur ce plan-là. Pour les problèmes de droits de l'homme, une situation analogue se présente. Néanmoins, si vous voulez, je pense que là, on peut faire des choses. Et j'ai accepté de faire partie de ce qu'on appelle des comités de défense des hommes de science, vraiment concentré sur les hommes de science. L'Académie des sciences, et mon collègue Émile Bogue fait partie aussi, a constitué un comité de défense des hommes de science, de même qu'une vingtaine d'autres académies dans le monde, qui, lorsqu'un scientifique se trouve en difficulté, qu'il est emprisonné, qu'il est soumis à des persécutions, interviennent en sa faveur auprès des autorités politiques du pays, envoient des messages. Et quand les messages sont signés par François Jacob, prix Nobel, souvent on a le bonheur de voir qu'ils ont été libérés. Et sur cet aspect-là, je pense que là aussi, nous pouvons aider à alléger les souffrances de collègues qui sont en difficulté parce que leur opinion ne plaît pas aux dirigeants de leur pays. Je sais que cette action a été très importante pour les réfugiés ethniques en Union soviétique, dans la précédente Union soviétique, pour les mathématiciens en Argentine, et ça continue actuellement à agir de cette façon. Il y a également un autre aspect où je crois que nous pouvons jouer un rôle important. Je pense que nous pouvons aider au rapprochement scientifique de communautés qui sont en conflit. Parce que la science est un langage universel que tout le monde comprend et tout le monde peut parler de science, même s'ils sont par ailleurs engagés dans des conflits. Et à cet égard, j'ai accepté et je fais partie d'un comité dont le comité scientifique comporte 7 prix Nobel et je crois 2 médailles Fields, qui s'appelle IPSO, Israeli-Palestinian Science Organization, dont l'idée est de récolter des fonds d'organismes privés, de fondations, pour créer des bourses de recherche, des contrats de recherche sur des sujets à condition qu'ils soient présentés conjointement par une équipe israélienne et une équipe palestinienne. Et à notre grande surprise, au premier appel de fonds, premier appel de propulsion, on a eu 75 demandes, ce qui prouve qu'il y a eu 75 équipes conjointes qui ont demandé à travailler ensemble. Malheureusement, on n'a pas assez d'argent et on n'a pu en subventionner qu'une dizaine. J'ai participé aussi une fois à une réunion à Malte où il y avait 4 prix Nobel de chimie et de physique et une trentaine de chercheurs qui venaient d'Iran, de Syrie, du Liban, d'Israël, d'Égypte, et qui pendant une semaine ont passé ensemble à faire de la science, à manger ensemble, à discuter, à écouter des exposés. Et ça, je trouve ça très positif. Je crois que parler de science, mettre en contact des scientifiques, je crois que c'est quelque chose qui est positif, qui permet peut-être d'atténuer les conflits et qui permet d'établir un dialogue entre des populations en conflit. Donc sur ce point aussi, je pense que on peut être utile. Donc, si vous voulez, c'est effectivement, par moment, une charge très lourde. Moi aussi, comme vous dites, j'ai envie de temps en temps, de m'isoler, de réfléchir, de faire de la recherche, de revenir dans mon laboratoire. C'est pas toujours facile, vous verrez, c'est pas toujours facile. Mais d'un autre côté, il y a des aspects positifs. Et je crois que si on s'impose une discipline rigoureuse et stricte, on peut avoir des satisfactions.
Je suis content de voir que ma voisine de droite a pris beaucoup de notes et donc elle est désormais encore mieux armée pour affronter ces dures années qui s'annoncent. Donc ça va être maintenant à... Ah oui, il a déjà un Gao de bien vouloir parler. Il a l'air comme ça un peu extérieur à certains des thèmes qui ont été abordés, mais à mon sens, il va très vite nous ramener à des choses communes.
Je me permets plutôt d'abord lire un extrait de mon discours prononcé à Stockholm devant l'Académie suédoise en décembre 2001. C'était pour le centenaire du prix Nobel. J'ai un texte, je pense que ça peut être intéressant de faire quelques extraits. Bon, je lis d'abord. C'est « Hormis le réel, il n'est rien d'autre auquel la littérature doive soumettre. Et l'écrivain, dans ses sphères de liberté spirituelle qu'est la littérature, n'obéit qu'un impératif qui est la recherche du réel. En fait, le réel est toujours le critère de jugement le plus fondamental pour la littérature. Néanmoins, au cours du siècle qui vient de s'écouler, les ingérences et les contraintes que la politique a exercées sur la littérature ont été sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Et les incursions de l'idéologie dans la littérature jamais aussi importante. Si la littérature veut passer outre aux ingérences politiques, revenir au témoignage sur l'homme et ses difficultés d'existence, elle doit en premier lieu s'écarter de l'idéologie, non pas avoir de isme, ni tel ou tel principe, revenir à l'individu, à une vision du monde à travers le regard singulier de l'écrivain, avoir recours au sentiment personnel véritable de celui-ci, ne pas être le porte-parole du peuple ou bien de la nation. Soumise d'une part aux ingérences politiques et idéologiques qui n'ont cessé jusqu'à aujourd'hui, d'autre part, à la pression de la commercialisation de la culture, qui est de plus en plus grave suite à la mondialisation de l'économie. La littérature actuelle, je parle de la littérature dont le jugement de valeur réside dans la réalité de la vie, ne peut que se réfugier à la marge de la société. Cette situation quelque peu décourageante de la littérature est en fait le reflet des difficultés d'existence de l'homme. La littérature qui cherche le réel ne veut ni être au service de la politique, ni conquérir un marché. Et naturellement, ses lecteurs sont limités. Bon, je dois dire que c'est le prix Nobel, justement, a mis en valeur de ce mise en valeur et honoré et fait connaître ce genre de littérature non utilitariste. C'est mon cas, c'est ça. Je dois dire, avant ce prix-là, oui, on dit que c'est un auteur presque inconnu. sauf dans un milieu très littéraire, très, très, très limité. Voilà, d'un coup, j'ai eu ce prix-là. Ça, c'est, j'ai eu aujourd'hui, j'ai eu au moins. D'après ce que je sais, ça, c'est, mes livres ont été traduits déjà en 36 langues. Et aussi, ça, c'est souvent beaucoup de langues, il y a plusieurs éditions. Par exemple, pour la langue arabe, au moins, je sais, il y a deux éditions, deux traductions différentes, au moins. On parle de troisième aussi. Et aussi, par exemple, c'est Portugal. Il y a aussi cette édition en Portugal, il y a aussi l'autre édition en Brésil, en autre Portugal. Et voilà, tout récemment, à Barcelone, j'ai rencontré un écrivain indien. Il m'a dit, ça, c'est votre livre m'a changé ma vie. C'est grâce à ce prix-là, voilà, un autre inconnu, voilà, pour l'art public, d'un coup, c'est mis en valeur, reconnu, son grand public. Voilà, maintenant, je dois dire, sauf mon pays natal, la Chine, je suis encore strictement censuré. Voilà, c'est presque maintenant dans le monde entier. Parmi, il y a des lecteurs. Et même, ça, c'est très difficile d'accepter cette chaleur. Et au début, chaque jour, c'est un sac de courrier arrive. On n'a pas le temps de l'ouvrir. C'est pas possible d'ouvrir. Voilà, au bout de quelques jours, c'est déjà dans tout mon salon. Je peux pas marcher. Voilà. Chaque fois, le poste apporte un grand sac de courrier. Voilà, c'était comme ça. Et bon, alors c'était pour moi vraiment une bataille pour reprendre mon temps, pour que je puisse vraiment continuer à écrire. Je pense que pour un écrivain, son vrai travail, c'est plutôt son œuvre. Voilà, c'est pas lui-même donner des conférences, rencontres publiques, ici et partout, dans toutes ces circonstances politiques, publicitaires, comme tout à l'heure. Madame a dit, il y a aussi voilà, tout genre des applications. Je pense non, ce n'est pas le vrai travail d'un écrivain. C'est plutôt, voilà, il parle ses livres, il parle au public. Voilà, c'est pourquoi j'ai fait beaucoup d'efforts pour... Bon, je suis très, très honoré, très, très touché. Ce prix-là m'a vraiment changé ma vie. Et puis, vraiment une période assez dure, parce que la santé ne peut pas subir tout cela. Voilà, tout cela, ça tombe sur une personne. Je n'ai même pas un secrétariat pour traiter de ces choses-là. C'était vraiment aussi une bataille pour reprendre mon emploi du temps, pour continuer à voilà, écrire et travailler. Voilà, c'est l'influence-là. Mais, voilà, je dois dire, cette littérature des mois voilà, n'évite évidemment pas la politique. Et pourtant, les matières des écrits ne visent pas à servir la politique, n'appellent pas le dambour pour telle ou telle tendance, se dressent encore moins sur le char de combat de telle ou telle partie, et dépassent donc ce qu'on appelle la dissidence. Lorsqu'elles touchent à des matériaux tabou, qu'ils soient politiques, sociaux, religieux, ou en rapport avec les us et coutumes, c'est finalement l'indépendance absolue de la littérature qui est encouragée, ainsi que la liberté spirituelle à laquelle l'auteur aspire assidûment. La littérature est somme toute un havre de liberté spirituelle. Elle représente la dernière ligne de défense de la dignité humaine. Et je dois dire, profiter de cette occasion-là, c'est le prix Nobel, la Fondation Nobel, depuis plus de 100 ans, qui résiste deux guerres mondiales, et la révolution russe, et la révolution chinoise, sanglante, et après, dit-on, culturelle, et tous ces calamités, quelquefois, mais ce n'est pas naturel, c'est plutôt humain, mais la Fondation Nobel, voilà, ce prix-là, toujours défendu voilà, pendant plus d'un siècle, cette valeur humaine, voilà, cette dignité humaine, ça, je dois profiter de cette occasion pour exprimer publiquement voilà, ça, cette reconnaissance. Bon, merci.
Vous avez entendu Françoise Barré-Sinoussi, Claude Cohen-Tanoudji et Gao Xinjian sur leurs impressions, leurs expériences de lauréat du prix Nobel. Ils s'exprimaient au Palais de la Découverte le 13 novembre 2008. Vous avez également entendu Patrick Emaus, le maître de cérémonie de cette conférence. Restez à l'écoute de Canal Académie et téléchargez notre émission en compagnie du professeur Montagnier, prix Nobel de médecine avec Françoise Barré-Sinoussi, ainsi que notre émission Parcours dédiée à Alfred Nobel, fondateur des prix. Merci de votre écoute et à bientôt pour de nouvelles émissions.